vous avez deux documents. Un premier document qui est donc ce tableau qui vous permet de reprendre toute l'année et de voir en fait à chaque fois quel était le point vraiment qu'on a abordé et puis de voir en fait quelle est la question, le point de conversion que cette séance nous invitait à vivre. Et ensuite, une ou deux références pour méditer. Bon, c'est un tableau que j'aurais dû faire en début d'année, mais le problème, c'est que c'est difficile de... C'est plutôt à la fin de l'année que je... qu'on voit ce qu'on va dire. Ah, c'est bon. Voilà. Si je refais ce cours, eh bien, évidemment, je donnerai le tableau en début d'année. Mais là, c'est à la fin de l'année que j'ai terminé le cours. Donc, un plan, on le fait toujours à la fin de l'année. Enfin, quand on écrit un livre... Il y a d'autres gens qui écrivent, font d'abord un plan et puis ensuite ils... Mais c'est pas ma manière, moi c'est plutôt contemplatif, c'est que je reçois les choses et à la fin je vois ce qu'ils dessinent. Mais, enfin bon, voilà. Bon, enfin tout ça, ça se discute. Hein. Alors, nous allons terminer la communion. Là, ça s'appelle de la communion à la mission. Donc on suit vraiment la messe pas à pas. Et j'aurais voulu... commencer par un texte, pour nous introduire à la communion, au moment où nous allons communier. Et je prends donc le vieillard Siméon, chapitre 2, verset 25 de l'évangile de Luc. « Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Il me semble que l'attitude de la communion, c'est peut-être l'attitude de Siméon. On va recevoir le corps du Seigneur, on va tenir dans nos mains d'une manière particulière le Christ, comme Siméon tient dans ses bras l'enfant Jésus. Et on nous dit de Siméon que reposait sur lui l'Esprit Saint. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et en quelque sorte, toute la messe, c'est ce processus pour que l'Esprit Saint repose sur nous. Nous sommes progressivement sanctifiés, divinisés, ajusté, hein, on a été purifié par le pardon des péchés, on a été enseigné, on a été préparé, on a été disposé. Hein, comme je vous l'ai dit, hein, nous sommes en quelque sorte cette pâte, comme ces grains, pour reprendre l'expression de d'Irénée, je crois, ces grains de blé. Nous apportons nos offrandes, en fait nos offrandes c'est nous-mêmes, et le feu de l'Esprit Saint va cuire en quelque sorte ces offrandes, c'est-à-dire nous-mêmes, pour que nous soyons avec le Christ une même offrande. Bref, voilà, il y a ce souffle de l'Esprit Saint qui repose hein, à travers la parole. On parle de l'Écriture, dans l'Écriture de la parole de Dieu, comme le glaive de l'Esprit, hein, en Hébreu chapitre 4. Bon, bref. Donc, on est progressivement sanctifié et du coup, l'attitude du communiant, je pense, c'est l'attitude de Siméon. « Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Hein, » j'ai, comme Siméon, en quelque sorte, appris dans ses bras celui qui permet de faire ce passage de ce monde au Père. Hein. « Maintenant, je peux m'en aller, je peux mourir. Pourquoi ?» Parce que j'ai dans mes bras celui qui va me permettre d'aller sur l'autre rive, qui va me permettre d'aller au ciel. Et de la même manière, l'Eucharistie, c'est bien le gage de la vie éternelle. Hein. On dit, mais c'est important, voilà, la personne mourante, bon, aux derniers instants de sa mort, est-ce qu'elle a reçu les sacrements? Bon, il ne faut pas tomber dans une angoisse, parce que Dieu est libre de passer au-delà des sacrements, mais le moyen ordinaire pour retourner vers le Père, c'est déjà d'avoir le Christ. Hein. Quelqu'un qui communie souvent, c'est quelqu'un qui a avec lui déjà le corps du Christ. Et du coup, comment pourrions-nous séparer la tête des membres? Hein, je te tiens, Seigneur. Je suis fixé à toi. Je suis greffé sur toi. Donc, toi qui retournes vers le Père, hein, le Christ ne fait que ça, finalement. Tout son mouvement, c'est d'aller vers le Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Hein. Il est descendu d'auprès du Père. Il vient chercher l'humanité. Voilà. Et ensuite, avec elle, il la prend, il la monte vers le Père. Voilà. C'est tout ce mouvement d'ascension hein, où nous sommes attachés à lui et donc nous entrons avec lui vers le Père. Voilà, donc peut-être qu'une parole, enfin c'est une proposition, hein, c'est une méditation évidemment, la parole du communiant c'est peut-être celle-là. Maintenant, ô Maître, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole. Voilà, Seigneur, je peux mourir parce que je te tiens. Le curé d'Ars disait ceci, « Ne sommes-nous pas bien plus heureux que Siméon? Nous pouvons le garder toujours, si nous voulons. Il ne vient pas seulement dans nos bras, mais dans notre cœur. » Et vous voyez, la parole du prêtre, le prêtre dit une parole à voix basse, qui est celle-ci, « Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. » Je vous l'ai mis sur la feuille. Hein, voilà. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle, Seigneur, voilà. Moi qui vais communier, eh bien, garde-moi, voilà. Que je reste attaché à toi, puisque je vais être uni à toi dans cette communion. Voilà. Le prêtre, quand il célèbre la messe, il doit communier. Ce qui n'est pas le cas forcément du laïc. Il peut très bien ne pas communier. Bon. Mais le prêtre, même en état de péché mortel, bon, avec la résolution de se confesser, bien sûr, mais enfin doit communier. Voilà, donc que ça me garde pour la vie éternelle et que ça ne m'éloigne pas. Alors, ça c'était pour l'esprit. Hein, avec Siméon, tenant le Christ dans ses mains, retourné vers le Père. Maintenant, manière très pratique, comment communier? Donc je m'appuie sur la présentation générale du missel romain, PGMR, au numéro 160. Je cite, c'est le texte que vous avez, « Les fidèles communient à genoux ou debout, selon ce qu'aura établi la conférence des évêques. Quand ils communient debout, il est recommandé qu'avant de recevoir le sacrement, ils fassent un geste de respect qui lui est dû, que la conférence des évêques aura établi. » Intuitivement, la conférence des évêques, elle n'a pas forcément établi beaucoup de gestes précis. Donc, c'est assez libre. Donc, quand on communie debout, il est important, par exemple, de s'incliner avant. En général, c'est ce que font les gens. Alors, pour pas que ça prenne trop de temps, souvent, ils s'inclinent derrière l'autre. Oui, en s'avançant. Ça. Bon, voilà. Voilà, c'est tout ça, le but toujours, c'est toujours d'évangéliser notre cœur par notre corps. Hein. On est une religion incarnée, donc on va poser des tas de gestes. Dans la liturgie, il y a plein de gestes, en fait, qui nous aident au niveau du cœur. Bon. L'encens, ça va toucher nos narines, les couleurs liturgiques vont toucher la vue. Les gestes vont nous aider. Hein. Si je plie avec mon corps, eh bien, je vais certainement plier avec mon cœur un peu. Bon. Alors, on peut communier dans la bouche ou dans la main. Alors après, il y a tout un historique là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu polémique. Simplement, alors j'offre une méditation hein, qui est libre, qui est personnelle. La bouche, à mon avis, communier dans la bouche, ça signifie davantage la dépendance. Un petit peu comme l'oiseau qui attend sa nourriture. Et puis, ça signifie aussi, en fait, tout le trajet de la messe, hein. L'enfant, il se nourrit par la bouche, dans une certaine dépendance. Il n'a pas de couteau, de couteau et de fourchette. Bon. Et vous savez que le mouvement de la messe, c'est de redevenir un petit enfant. Je pense que j'en ai parlé, je ne sais plus, hein. Je vous avais dit au début, c'est très intellectuel, on a des tas de lectures et tout, on arrive comme des grands personnages, et puis ensuite, petit à petit, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus simple, qui est l'aliment. L'aliment, c'est très simple, et le silence. Donc on passe d'une parole, Dieu dit des paroles un peu compliquées des fois d'ailleurs, l'Ancien Testament, tout ça, on ne connaît pas très très bien tout, non? Et puis ensuite, on n'a plus de parole, on a simplement un geste, une nourriture. Donc vous voyez, c'est l'inverse de l'enfant. L'enfant, il commence par la nourriture, et puis arrive la parole, et puis des choses très intellectuelles. Mais nous, on fait l'inverse. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, hein, si vous ne ressemblez pas à des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc le but de la messe, c'est d'arriver à la fin à être dans cette dépendance, dans cette attitude d'enfant. Au sens noble, hein, l'enfant, c'est l'abandon, hein, c'est pas ne rien faire et être bête, hein. Arriver à s'abandonner, c'est assez compliqué, en fait. Enfin, bon. Voilà. Et peut-être que la communion dans la bouche le signifie, hein. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Et puis la communion dans la main, donc vous avez un célèbre texte de Cyrille de Jérusalem que je vous ai mis, hein, le texte numéro 3. Je ne vais pas le lire, mais vous le lirez chez vous. Donc il parle des mains. Alors quand les gens communient dans la main, faut qu'ils apprennent à bien communier dans la main, c'est-à-dire à mettre distinctement les mains au niveau du cœur, comme ceci, hein, une sorte de trône. Parce que j'en vois, moi, des enfants, ils communient, on ne sait pas trop, les mains ne sont pas très propres, bon. Et puis ensuite, je communie, puis je vérifie qu'il n'y ait pas de parcelle de stie qui reste. Bon, donc comment dire, je vérifie attentivement, pas vite fait, bon, voilà. Bon. Alors, les mains, j'ai noté dans la Bible que les mains signifiaient les œuvres. Hein, je cite Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains. Sanctifiez vos cœurs, gens à l'âme partagée. Purifiez vos mains, c'est-à-dire purifiez vos œuvres. Donc vous voyez, communier dans la main, c'est peut-être dire au Seigneur, écoute, tout mon travail, tout ce que je réalise, eh bien, qu'il soit saint, que tout soit empreint d'amour. En tout cas, que nous communions dans la main ou dans la bouche, nous contemplons quoi? La remise totale de Jésus. Hein, Dieu se donne, Dieu se livre entre nos mains, comme dit le chant. Il se remet entre nos mains, il se remet comme il se remet entre les mains du vieillard Siméon, au sens large du terme, comme il se remet au Père. Jésus, toute sa vie, ne cesse de se remettre à Dieu le Père. Et du coup, communier, c'est devenir ce que l'on reçoit, comme dit saint Augustin. Et donc, nous aussi, entrer dans un mouvement d'abandon et de confiance. Alors, je continue. À la fois, je fais des liens avec notre vie concrète et puis je donne des points d'attention très pratiques. Donc je vous lis comme point d'attention le texte numéro 2. Il n'est pas permis aux fidèles de prendre eux-mêmes le pain consacré ou le calice, encore moins de se le transmettre de main en main. Donc ça, voilà. Alors pourquoi? Parce qu'on ne se communie pas soi-même, on ne se donne pas la nourriture à soi-même, on la reçoit. Vous avez la comparaison avec le mariage, hein? Dans le mariage, qu'est-ce que je dis à l'autre? Je te reçois comme époux et je me donne à toi. On ne prend pas les personnes, on ne prend pas les choses. on reçoit. Donc ne pas prendre sur l'autel nous-mêmes, comme ça s'est fait à certaines époques, où les gens venaient et puis trempaient, je sais plus, ou dans le calice, ou buvaient eux-mêmes. Non, on reçoit les choses. Voilà. En fait, les grandes choses, on ne peut que les recevoir. Quand on réfléchit, voyez un énorme ballon, hein, vous imaginez un énorme ballon comme ça, là, qui fait 3 mètres, bah, vous pouvez le recevoir, voilà. Mais vous ne le prenez pas, vous n'allez pas prendre un ballon de 3 mètres, c'est énorme. Par contre, une petite balle de tennis, là, vous la prenez, voilà, tout petit. Dès que c'est grand, on reçoit. Voilà. Prendre, c'est enfermer. Recevoir, c'est ouvrir, s'ouvrir. On reçoit l'Eucharistie à l'inverse d'Adam qui prend le fruit. Voilà. Voilà. Et puis on dit Amen. Donc il est important d'entendre cet Amen. Des fois, il y a des gens, sous prétexte qu'ils communient dans la bouche, on n'entend rien. Bon, donc je dis Amen avant. Voilà, moi je vérifie, hein, en fait, les gens qui ont fait leur première communion, au fait, ils disent Amen. Donc ça m'est arrivé, en donnant la communion, la personne ne dit pas Amen, et je leur dis, je vais vous bénir, et la personne est bien contente que je la bénisse, parce qu'en fait, elle ne communie jamais. Donc elle est venue dans la file, elle ne savait pas trop quoi faire, et le Amen n'était pas là, enfin j'ai bien compris que, voilà, que... C'était plutôt un geste mécanique lié au mariage donc où ils assistaient, mais c'était pas, en fait, ils voulaient pas communier. Ben, ils voulaient s'approcher de l'autel, ils voulaient prendre du pain, mais ils voulaient pas communier. Donc voilà. Donc c'est important de bien vérifier si vous donnez la communion, que les gens disent Amen. Si vous avez un doute, vous les bénissez. Ben, Amen après. Ah non, mais vous dites le corps du Christ et puis ils disent Amen. Ben, si, si... Voilà. Ah ben non, 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 je donne pas la communion tant qu'ils disent pas Amen. Je fais le corps du Christ et j'attends. Voilà. La communion sous les deux espèces. C'est bien de quand on peut, de communier sous les deux espèces. Nous, on fait le jeudi saint parce que c'est quand même bien symbolique. Alors, c'est le texte numéro 5. Il est très souhaitable que les fidèles, comme le prêtre est tenu de le faire lui-même, reçoivent le corps du Seigneur avec des hosties consacrées. Non, c'est pas ce que je voulais dire, ça. Bon, c'est pas très grave. Ah oui, voilà, ça va. Non, non, c'est bon, c'est bon. Au cours de cette même célébration et dans les cas prévus, qu'il participe au calice, afin que par ces signes mêmes, la communion apparaisse mieux comme la participation au sacrifice actuellement célébré. Donc ça, je dis ça pour les sacristines, quand vous êtes sacristain. Il est souhaitable que les prêtres communient aux hosties consacrées au cours de cette messe. Hein. Parfois, en fait, ça arrive dans certaines paroisses, hein. En gros, ils consacrent des hosties pour la semaine, et puis comme ça, c'est fait. Et puis ensuite, le prêtre, il y a une hostie pour lui, et puis c'est bon. Non. Pourquoi? L'idée derrière, c'est de bien comprendre que le sacrifice est quelque chose de vivant, d'actuel. C'est pas une réserve qu'on va chercher. Ça veut pas dire que le Seigneur n'est pas dans la réserve. Il est tout autant présent, il n'est pas moins présent. Mais il faut progressivement qu'on apprenne, qu'on intègre, qu'on rentre dans quelque chose de dynamique et de vivant. Ça se réalise, vous voyez, c'est pas... Enfin, la réserve, elle est destinée aux malades, c'est tout. Enfin, normalement, c'est ça, c'est pas... En cas de dépannage, voilà, bon, mais pas... Bon. Voilà. Donc, ça veut dire qu'avant de préparer, on se renseigne un petit peu, qu'est-ce qu'il y a dans le tabernacle, on demande au prêtre, il vérifie rapidement... voilà. Bon. Alors, cette communion, ensuite, elle est proposée sous les deux espèces. Alors là, je vous prends le texte numéro 6. Bon, c'est des tas de choses qu'on ne vit pas bien hein, dans nos paroisses, mais ce n'est pas gênant. Enfin, le but, c'est de savoir vers quoi on doit tendre. Hein. Bon. La Sainte Communion réalise plus pleinement sa forme de signe lorsqu'elle se fait sous les deux espèces. Car sous cette forme, le signe du banquet eucharistique est mis plus pleinement en lumière et on exprime plus clairement la volonté divine d'accomplir la nouvelle et éternelle alliance dans le sang du Seigneur. On montre aussi plus clairement la relation entre le banquet eucharistique et le banquet eschatologique dans le royaume du Père. Donc ça veut dire que c'est pas tellement utile, mais ça va exprimer, ça va signifier davantage, en fait, la notion de banquet eschatologique. Hein? Le vin, comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, ça signifie la joie, l'allégresse, la surabondance. Dans le vin, nous ne sommes pas dans l'ordre de la nécessité. Il n'y a pas besoin de vin. On peut vivre sans vin. Donc on est au-delà de la nécessité. Le pain, c'est la nécessité. Si j'ai pas de pain, je meurs. Mais le vin, je signifie, voilà, cette allégresse qu'on retrouve dans les textes de l'Ancien Testament. Bon, donc je vous renvoie à l'offertoire et à l'enseignement sur le pain et le vin. Voilà, quand on est en tout petit comité, en général, je fais communier les personnes sous les deux espèces. Bon, il faut être en tout petit comité. Bon, voilà. Alors, cette communion au vin, comment ça va se passer? Je ne vous ai pas mis le texte, mais je vous lis la présentation du missel romain au numéro 287. Si la communion en calice se fait par intinction, le communiant, tenant le plateau au-dessous de sa bouche, s'approche du prêtre qui tient le calice, ayant à son côté le ministre qui porte le vase contenant les hosties. Le prêtre prend une hostie, en trempe une partie dans le calice, et en l'élevant, dit le corps et le sang du Christ. Le communiant répond « Amen », reçoit du prêtre le sacrement dans la bouche et se retire. Donc c'est pas du tout traditionnaliste, c'est le truc du missel romain, donc c'est ce qui va sortir là d'ailleurs, dans le nouveau missel. Donc ça veut dire que le prêtre tient le calice, parce que le calice c'est ce qu'il y a de plus délicat, hein. Le vin ça peut partir. Hein. Donc là il tient, il a plus l'habitude en général, donc il y a un acolyte, donc soit un servant d'hôtel, soit un laïc, qui lui tient la patène. Et donc, il va prendre l'hostie, trempe lui-même et approche. Et donc, du coup, ça oblige de communier dans la bouche. Voilà. Voilà. Oui, mais ça c'est une erreur. Quand c'est sur l'autel et on fait nous-mêmes, c'est une erreur. Ah, mais il y a beaucoup de prêtres qui ne savent pas tout. Hein. Moi, je ne savais pas forcément tout ça. Il faut étudier. Comme dans la Bible, on ne sait pas tout. Ben vous lui direz présentation du missel romain numéro 287. Voilà. Et puis le texte Sacramentum Caritatis. Alors, quand est-ce qu'il faut communier? C'est obligatoire de communier une fois l'an. Ça, c'est ce que dit le droit canonique, hein, au numéro 920. Et de se confesser une fois par an aussi, bon. Alors après, si on communie plus, qu'on se confesse plus, enfin moi ça va avec. On est tous tenus à assister à la messe chaque dimanche. Donc on est normalement invité à communier aussi chaque dimanche. Voilà. Parfois, nous pouvons avoir deux messes dans la journée. Parce qu'on a la messe du samedi matin, puis un mariage l'après-midi par exemple. Ben, nous pouvons communier deux fois dans la journée. Alors, dans quel état d'esprit communier ? Prenons ce texte numéro 7, qui est un beau texte. Écoutez, mes frères, si la bienheureuse Vierge a reçu tant d'honneur, et c'est justice, car elle l'a porté dans son sein très pur, si Jean-Baptiste trembla de joie et n'osa pas poser sa main sur la tête bénie du Seigneur, si l'on vénère le sépulcre où il repose peu de temps, combien alors il doit être saint, juste, digne, celui qui l'accueille dans ses mains, le reçoit sur ses lèvres, et dans son cœur, et va l'offrir aux autres pour qu'ils le reçoivent. Ce serait grande misère et malheur sans nom si, pendant qu'il est ainsi présent en vous, vous aviez cure de quelque autre chose au monde. Que tremblent les humains, que l'univers entier frémisse et qu'exulte le ciel quand le Christ, le Fils du Dieu vivant, est là, sur l'autel, entre les mains du prêtre. Contemplez l'humilité de Dieu et ouvrez-lui vos cœurs. Humiliez-vous, vous aussi, pour qu'il vous exalte. Bon, et ça, c'est donc François d'Assise. Et le texte de Chrysostome en dessous, texte numéro 8. Terribles sont les mystères de l'Église, terrible autel, sans l'aide particulière de la grâce de Dieu, il n'est pas une âme capable de supporter le feu d'un tel sacrifice sans être complètement anéanti. Quand le chrétien revient de la sainte table, il ressemble à un lion qui crache des flammes de feu. Sa vue est insupportable aux démons. Il faut avoir fait au moins une fois l'expérience de la majesté terrible de l'Eucharistie pour comprendre pleinement ensuite la bonté et la miséricorde de Dieu qui cache, comme d'un voile, sa majesté de peur de nous anéantir. Bon. Bon, en gros, ça veut dire, voilà, communion avec des grands désirs et rendons-nous compte, voilà, que nous portons la braise, le feu ardent dans notre cœur. Donc, ne passons pas à nous distraire en, je sais pas quoi, en ouvrant le Magnificat, bref, en regardant sa montre ou autre chose. Alors, cette communion, elle doit être une communion physique, quand on peut, ou une communion de désir. Hein, c'est mon numéro 5. En effet, il est possible qu'on ne puisse pas communier, mais nous pouvons communier par le désir. Vous êtes là, vous êtes... on peut aller à la messe tous les jours, bon, donc on peut communier tous les jours. Mais il se trouve que vous voudriez communier ce jour-là et vous êtes pris par un voyage. Bon, voilà. Alors, si vraiment vous désirez communier, eh bien, le Seigneur peut se donner à vous quand même. C'est ce qu'on appelle la communion de désir. Alors, est-ce que j'ai un petit texte? Texte 9. Alors, je lis donc, ça c'est ce que dit le Concile de Trente. Pour ce qui est de l'usage, nos pères ont justement distingué trois manières de recevoir ce Saint-Sacrement. Ils ont enseigné que certains ne le reçoivent que sacramentellement en tant que pécheurs. D'autres ne le reçoivent que spirituellement. Ce sont ceux qui mangent par le désir le pain céleste qui leur est offert avec cette foi vive qui opère par la charité. On ressent le fruit et l'utilité. D'autres enfin le reçoivent à la fois sacramentellement et spirituellement. Ce sont ceux qui s'éprouvent et se préparent de telle sorte qu'ils s'approchent de cette table divine après avoir revêtu la robe nuptiale. Voyez, dans la communion spirituelle, je vais vous lire Sacramentum Caritatis, donc du pape Benoît XVI. Il dit ceci au numéro 55, SC 55. Vous n'avez pas le texte. Hein. Quand il n'est pas possible de s'approcher de la communion sacramentelle, la participation à la messe demeure cependant nécessaire, valable, significative et fructueuse. C'est fructueux de venir à la messe même si je ne communie pas. Je vous donne aussi Pie XII, dans l'encyclique Mediator Dei, au numéro 112. L'Église désire avant tout que les chrétiens, spécialement quand ils ne peuvent pas recevoir effectivement la nourriture eucharistique, la reçoivent au moins de désir, de manière à s'unir au Rédempteur avec une foi vive, un esprit respectueusement humble et confiant dans sa volonté, avec l'amour le plus ardent. Donc en fait, oui, quand je participe à la messe, même si je ne reçois pas la communion, eh bien je peux quand même m'unir au Rédempteur qui s'offre, parce que la messe, ce n'est pas simplement communier, c'est aussi l'offrande du Fils au Père, dans le par lui, avec lui, en lui. On avait vu que ça avait été le sommet de la messe. Donc je peux quand même m'unir, voilà, dire à Seigneur, fais de moi une hostie vivante, et communier de manière spirituelle, parce que je ne peux pas communier. Ou alors, si je ne suis pas à la messe, que je suis dans un autre lieu, là vous avez des textes de Sainte Gertrude, d'Alphonse de Liguori. Voilà, vous avez, alors, bon, vous avez un petit livre de Michel Martin-Prével qu'en parle. Bon, bref, qui fait que, voilà, on peut très bien communier spirituellement. Alors, ce qui est important dans le texte que je vous ai mis, le texte numéro 9, c'est que, vous voyez, il y a deux manières de communier, une sacramentellement et une spirituellement. Ce que veut dire le Concile de Trente, c'est qu'on peut communier sacramentellement, physiquement, mais ça ne porte pas de fruits. Pourquoi ça ne porte pas de fruits? Parce que ce n'est pas quelque chose de mécanique. Je vais communier, et puis ça y est, Dieu me transforme. Non, ça me transforme si je communie aussi spirituellement, c'est-à-dire avec un grand désir. Et donc parfois, ce que disent certains témoignages, qu'est-ce que j'ai comme témoignage? J'en avais un, je crois. Ah oui. Alors, au XIIIe siècle, Sainte Gertrude s'était trouvée si dépourvue de force qu'elle ne put se rendre communier sacramentellement. Elle le fit spirituellement en regardant l'hostie et demanda à Jésus. Celles qui vous ont reçu dans ce sacrement ont-elles un plus grand effet de grâce? Le Seigneur lui fit comprendre qu'encore que celui qui communie réellement reçoive de plus grands avantages pour son salut, néanmoins, celui qui par un devoir d'obéissance et une sainte discrétion se prive de recevoir corporellement ce sacrement auguste et qui, enflammé du désir et de l'amour de Dieu, communie spirituellement, reçoit devant Dieu des fruits plus abondants. Donc, en fait, un autre texte de ça, c'est Pierre Lombard. Celui qui ne mange pas mange et celui qui mange ne mange pas parce que celui qui ne mange pas sacramentellement mange quelquefois spirituellement et réciproquement. Et ceux qui mangent spirituellement sont dits recevoir la vérité de la chair et du sang. Alphonse de Liguori, cet aliment divin ne fait grand bien qu'à ceux qui en sont affamés et il profite peu aux âmes qui le désirent peu. Cet aliment divin ne fait grand bien qu'à ceux qui en sont affamés, il profite peu aux âmes qui le désirent peu. Bon, bref, c'est toujours pareil, comme dans tous les sacrements, le sacrement il produit un effet parce que je désire beaucoup. Si je désire peu, je profite peu à la communion que je reçois, c'est tout. Et si vraiment, vous voyez, je ne sais pas, moi, telle personne âgée voudrait communier, mais elle est en voyage chez ses petits-enfants, et ses petits-enfants lui font la guerre parce qu'elle désire aller à la messe, et qu'elle a compris que s'ils allaient, je sais pas quoi, lui faire la tête pendant des jours, parce que, bon, voilà, eh bien, à ce moment-là, si vraiment, dans un temps de prière, elle s'unit sacramentellement, spirituellement, pardon, mais pas sacramentellement, physiquement, elle peut recevoir, eh bien, des bienfaits autant qu'une personne qui va communier à la messe. Bon, c'est ça, voilà, qui... Mais la question, c'est est-ce que nous prenons tous les moyens, quand nous ne pouvons pas communier physiquement, est-ce que nous prenons tous les moyens pour communier physiquement? En fait, c'est ça plutôt. Est-ce que nous prenons tous les moyens pour communier? C'est plutôt ça, voilà. 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 Mais est-ce qu'on a pris son téléphone quand on est malade et qu'on regarde la messe à la télé pour demander au prêtre qu'il me trouve quelqu'un pour m'amener la communion parce que je suis malade? Ben oui, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est je veux par amour propre, par désir de ne pas déranger, eh bien je ne communie pas en disant ben non, je ne vais pas déranger. Ben oui, mais après le prêtre, il vient pas, il se débrouille. Mais je dois déranger, enfin. Le prêtre, il est là pour ça, hein, pas pour faire des conférences sur la messe. Bon. Oui, mais enfin, le but, c'est pas de faire des conférences pour la messe si les gens communient pas. Le but, c'est de faire des conférences sur la messe pour que les gens communient davantage. Donc, bon.
Et si l'on ne se sent pas, si vous voulez, libre un dimanche, que vous n'avez pas envie de communier justement tout ça, on peut très bien, le dimanche suivant, communier sacramentellement.
Ben oui, en s'étant confessé entre deux. Si on ne se sent pas digne, c'est qu'on a une raison.
Il ne s'agit pas forcément de péché. Alors, je veux dire,
ah ben non, mais si on ne s'en sent pas digne, on ne s'en sentira jamais digne.
C'est une question de, parfois de tiédeur.
Bon. Bon, pourquoi pas. Il faut que ce soit un bien. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Le but, c'est pas... Le but, c'est que ça soit un meilleur bien. C'est vrai que dans les exercices de Saint Ignace, souvent, quand on commence les exercices, ils nous disent, vous n'êtes pas obligé de communier. Bon. Mais parce qu'ils reçoivent une assemblée qui est très large, avec des gens qui ne se sont pas confessés depuis longtemps, etc. Après, si vous avez une vie droite, vous n'êtes pas en état de péché mortel, je vous conseille de communier quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est...
Ah non, mais je suis d'accord.
Enfin, voilà. Bon. Je suis plutôt à inciter, quoi. Non. Ouais, ouais. Mais il faut que ce soit un bien. Il faut qu'il y ait un fruit qui soit un bon fruit, voilà. Ça peut être aussi par solidarité pour ceux qui ne peuvent pas communier. Ça peut être ça aussi. Je reste à mon banc. Bon. Il peut y avoir des raisons. Bon, là, c'est après chacun. Hein. Mais enfin, il n'y a rien de mis sur les textes. J'ai pas de texte là-dessus. Hein. Bon. Voilà, alors ensuite, nous entrons dans l'action de grâce. Alors, d'abord, non, le chant de communion. Le texte numéro 10. Pendant que le prêtre consomme le sacrement, on commence le chant de communion pour exprimer par l'unité des voix l'union spirituelle entre les communions, montrer la joie du cœur et mettre davantage en lumière le caractère communautaire de la procession qui conduit à la réception de l'Eucharistie. Le chant se prolonge pendant que les fidèles communient, mais il s'arrêtera au moment opportun s'il y a une hymne après la communion. Bon, l'idée, là c'est pareil, je parle un petit peu en mon nom. Donc, on commence le chant de communion dès que le prêtre, communie. Bon, là, on n'attend pas 3 heures. Ce chant va exprimer cette unité avec le fait que les gens s'avancent en procession. Vous voyez, c'est un chant qui accompagne un geste. Le chant d'offertoire, il accompagne l'offertoire. Le chant d'entrée, il accompagne l'entrée. Donc, quand l'entrée est terminée, quand le prêtre est à son siège, qu'il a ouvert son missel, que c'est bon, il est prêt, on arrête le chant d'entrée. Le chant de communion, il accompagne la procession. Quand la procession est terminée, on arrête. Voilà. Bon. Alors, chez nous, il y a l'orgue qui fait un petit peu de musique. Bon, mais il faut veiller à ce qu'il y ait quand même un temps de silence, que sinon, entre le chant de communion, l'orgue, on n'arrête pas, quoi. Chacun y va de sa musique. Bon. S'il n'y a pas de chant, la présentation du missel romain dit que le prêtre peut lire l'antienne proposée. Il y a une petite antienne qui s'appelle l'antienne de communion. Voilà. Du coup, ça permet que les fidèles méditent une parole en lien avec la communion. Alors là, je donne une petite opinion personnelle. Je pense qu'il faut veiller à ce que les chants soient plutôt christocentrés et pas trop anthropocentrés. Donc, centrés sur le Christ et pas trop centrés sur l'homme. Bon. Dans le sens, nous sommes le corps du Christ... nous avons communié au même corps, nous sommes l'Église nouvelle, bon. Par goût, je préfère qu'on parle du Christ, parce que les gens sont peu catéchisés, beaucoup ne savent pas dans quoi ils communient, en fait, malgré tout, même si on fait des belles homélies. Donc, ouais, des chants sur le Christ, ça va être « Vous recevez entre vos mains le corps du Christ ». Voilà. Vous recevez le corps du Christ. Le pain que nous mangeons n'est plus du pain, le vin que nous mangeons n'est plus du vin. Voilà, du coup, voilà, c'est centré sur le Christ, c'est pas centré sur nous. Voilà. Bon. Ça va? Alors, l'action de grâce. Hein? Texte numéro 11, Maurice Zindel. C'est le moment ineffable où l'âme se repose en Dieu comme Jean s'appuyait à la scène sur le cœur de son maître. L'action de grâce. Bon, ben voilà. Alors, dans cette action de grâce, nous allons donc nous reposer, bon, comme Saint Jean, rentrer dans cette communion spirituelle, cette adhésion du cœur, et nous allons recevoir des fruits. Alors, je vous ai mis quelques fruits. Je commence par le texte numéro 12 que dit le catéchisme en parlant des fruits de la communion. La sainte communion au corps et au sang du Christ accroît l'union du communiant avec le Seigneur, lui remet les péchés véniels et le préserve des péchés graves. Puisque les liens de charité entre le communiant et le Christ sont renforcés, la réception de ce sacrement renforce l'unité de l'Église, corps mystique du Christ. Donc voilà, c'est un petit peu résumé, puis on va détailler l'ensemble. Vous avez remarqué que la communion nous remet les péchés véniels. Ce qui veut dire que il y a plusieurs moments dans la messe où, en fait, nous sommes pardonnés. Comme je vous ai dit, toute la messe est un processus pour devenir de plus en plus juste, de plus en plus pur, de plus en plus saint, pour devenir le Christ. Donc voilà, dans certaines messes, vous voyez, quand on fait le « Je confesse à Dieu », les laïcs font le signe de croix, comme s'il y avait une remise des péchés à ce moment-là. Oui, mais enfin, il n'y a pas qu'à ce moment-là. Il y a aussi au moment de la communion, nous dit le catéchisme. Donc là, il y a plusieurs moments, en fait. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Bon. Donc voilà, donc c'est un petit peu idiot de faire le signe de croix là, il faudrait le faire à plusieurs reprises. Voilà. Alors, je donne quelques fruits. Le premier fruit que je donne, en plus de ce que dit le catéchisme, c'est la déification. Nous sommes déifiés. En fait, nous déifier, ça veut dire que nous devenons Dieu. Je lis Saint Jean Chrysostome, le texte numéro 13. Je suis descendu sur la terre non seulement pour me mélanger à toi, mais pour m'enlacer en toi. Je suis mangé, je suis mis en pièces afin que soit profond le mélange, la fusion, l'union. Les choses que l'on unit demeurent chacune en elles-mêmes. Moi, je forme comme un seul tissu avec toi. Je ne veux plus rien entre nous deux. Je veux que les deux soient un. En fait, c'est ça qui est très beau, c'est que, en fait, quand nous communions, en fait, la nourriture que nous prenons, on dit, tiens, c'est nous qui communions, qui nous nourrissons du Christ, qui absorbons le Christ. En fait, c'est l'inverse. Quand je communie, c'est le Christ qui m'absorbe, qui me déifie, qui me rend Dieu, qui me divinise. C'est le seul cas où, dans la nourriture, ce n'est pas la nourriture qui devient l'homme. Quand je prends des carottes, eh bien, les carottes deviennent l'œil, deviennent des membres, mais c'est moi qui deviens le Christ. Et alors, avec la force, la grâce, que les deux parties reste aussi elle-même. Et plus je communie, plus je deviens moi-même. Hein, l'inverse d'une fusion. J'ai eu l'autre jour un couple que j'ai reçu, préparation en mariage. Et alors, ils ne se rendent pas compte. Hein, donc, lui, il dit, il est très amoureux. Ouais, mais en fait, si tu dis, enfin, si, en gros, enfin voilà, bon, en gros, faut que je reste discret. Si tu disparaissais, ou moi je sais que, fou là là, je pourrais plus vivre et je retomberais dans certains esclavages. Bon, je sais pas quels sont ces esclavages, mais parce que je l'ai pas reçu en particulier. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si, alors on peut imaginer le pire, quelqu'un qui a été drogué, tout ça. En fait, si tu mourais ou si je ne me mariais pas avec toi, en fait, je retomberais dans la drogue, je retomberais dans ceci, dans cela, l'alcool, je sais pas trop. Alors à ce moment-là, vous êtes complètement dans la fusion. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vivre de manière équilibrée, autonome. Voilà. Et c'est ça le but du Christ, c'est que plus nous communions à lui, plus nous sommes dans cette liberté, plus nous arrivons à nous assumer nous-mêmes. Hein? La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Donc ça, c'est la première chose, la déification. Nous sommes le Christ. En quelque sorte, quand nous communions au corps du Christ. Au corps, mais plus exactement au cœur du Christ. Celui qui me mange vivra par moi, dit Saint Jean au chapitre 6. Hein? Vous savez que dans les miracles eucharistiques, on a analysé le sang ou le morceau de chair. Vous savez, il y a eu Lanciano, il y a eu Buenos Aires, il y a plusieurs miracles eucharistiques où vous avez le pain qui s'est transformé en morceau de chair. Et les scientifiques disent, ah ben, ce morceau de chair, que ce soit à Lanciano ou à Buenos Aires en Italie, c'est un morceau de cœur. Et donc, c'est en quelque sorte la communion, c'est une transplantation cardiaque, où mon cœur devient le cœur de Dieu, le cœur du Christ. Le deuxième fruit, c'est une invitation à imiter le Christ comme humble serviteur. Nous avons souvent une mauvaise définition de l'humilité. Quand vous lisez, par exemple, l'humilité dans l'imitation de Jésus-Christ, vous savez, ce texte que certains ont lu, on nous dit ceci, être humble, c'est ne pas s'estimer plus qu'on est, c'est se considérer dans sa bassesse, s'humilier pour des défauts, c'est avoir la conviction d'être le plus petit de tous. Alors, être humble, alors du coup je me dis, tiens, est-ce que le Christ est humble? On va reprendre la définition en disant, tiens, est-ce que le Christ est humble? Être humble, c'est ne pas s'estimer plus qu'on est. Bon, oui, ça c'est vrai que le Christ, il est. C'est se considérer dans sa bassesse. Le Christ n'est pas vraiment bas, hein. S'humilier pour des défauts. Le Christ, il n'a pas de défauts. C'est avoir la conviction d'être le plus petit de tous. Ben, le Christ, il se considère comme le plus grand de tous. Ah, il s'est fait. Ah, il s'est fait le plus petit de tous. Voilà. Donc, c'est pas avoir la conviction d'être le plus petit de tous. Vous pouvez avoir la conviction d'être le plus petit de tous et vous l'êtes réellement. Dans un groupe, vous dites « je suis le plus nul ». Et alors, vous pouvez dire « je suis le plus nul, le plus pauvre » et vous pouvez l'être réellement. Bon. Vous pouvez vous sentir petit et vous avez raison de vous sentir petit parce que, voilà. Par contre, si vous vous faites le plus petit, à ce moment-là, là, vous avez l'humilité du Christ qui, en effet, lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Donc on voit bien que l'humilité, c'est pas se sentir petit, c'est se faire petit. Quand est-ce que je me fais petit? C'est quand je me fais serviteur. Vous êtes d'accord? Hein? Alors s'étant assis, Marc chapitre 9, il appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et Jean chapitre 13, vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Hein? Si donc je suis ce seigneur, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Voilà donc, quand Jésus dit « Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur » et vous trouverez soulagement pour vos âmes, Quand il dit « je suis humble de cœur », ça ne veut pas dire « je suis petit, je suis pauvre, voilà, j'existe pas, je parle pas, je suis silencieux », tout ça. Ça veut dire « je me fais serviteur ». Donc, l'humilité, parce que souvent il y a une confusion, les gens disent « moi, vous savez, je suis pas capable, je sais pas, etc. » Sous-entendu, j'ai envie d'être humble. Je vois que la personne est humble au fait qu'elle est capable d'être serviteur. D'ailleurs, Jésus le déclare, hein. Il y a ici plus que Jonas, plus que Salomon, que David, Abraham ou Moïse. Il dit, je suis le plus grand. Voilà. Mais apprenez que je suis humble. Voilà. Donc, quand je communie au corps du Christ, je vois Jésus qui se fait serviteur, qui choisit l'aliment comme un moyen. C'est un moyen, en fait. Je me fais nourriture, donc je diminue. J'ai envie que les uns et les autres me prennent comme un moyen pour grandir. Quand je me fais serviteur, je suis le moyen de quelque chose. Si, je sais pas, je lave la pièce, je rends service, je vais laver la pièce. Ben, mon être humain, il est au service d'autre chose, comme l'Eucharistie est au service de la divinisation des personnes. Voilà. Donc, quand le prêtre va dire « allez dans la paix du Christ », ça veut dire « allez, soyez serviteur ». Qu'est-ce que dit saint François d'Assise ? Contemplez, frères, l'humilité de Dieu, l'abaissement de Dieu. Ouvrez-lui vos cœurs, humiliez-vous, vous aussi, afin qu'il vous exalte. Voilà. Bien. Alors ensuite, après l'humilité, l'Eucharistie pour se changer et changer le monde. La puissance transformante de l'Eucharistie. En fait, quand je communie, d'accord, quand j'adore le Saint-Sacrement, pareil, c'est vrai, je prends conscience que ma vie doit être un service pour l'humanité. Mais je prends aussi conscience que je dois transformer le monde. En fait, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie ? C'est une série de transformations multiples. D'abord, l'Eucharistie commence par la croix. La croix, c'est quoi ? Une transformation de la violence en un acte d'amour et de tendresse. Hein? Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est ça qui est très fort. Jésus va prendre cet acte barbare, il va en faire un acte d'amour. Première transformation. Ensuite, par la résurrection, son corps mortel devient un corps ressuscité. Deuxième transformation. Troisième transformation, il va prendre le pain, le vin et en faire son corps. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Troisième transformation. Quatrième transformation, je vais communier au corps et au sang du Seigneur et du coup, je vais être divinisé, je vais devenir le corps du Christ. Quatrième transformation, l'Eucharistie me transforme. Et cinquième transformation, j'ai été transformé. Pourquoi ? Pour transformer le monde et l'aider à rentrer dans cette douceur. Voilà, dans cette douceur, comme Jésus transforme la croix en un mystère d'amour. Benoît XVI dit ceci, « Dans le sacrement de l'Eucharistie, le Seigneur a voulu devenir notre nourriture spirituelle pour transformer le monde de l'intérieur à partir du cœur de l'homme. » Voilà. Donc, j'ai bien compris, voyez, que ce soit dans la communion comme dans l'adoration eucharistique, le fruit de l'Eucharistie, « Seigneur, donne-moi de transformer le monde en vivant en moi-même une transformation. » La transformation du monde, elle passera par la transformation de notre cœur. Autre fruit, nous communions au Fils, à l'Esprit et au Père. Hein? 1 Corinthiens 10, 16. La communion de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Donc, évidemment, quand nous communions au corps du Christ. Bon, c'est pas très compliqué ça. On communie aussi à l'Esprit Saint. Je cite 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, n'est avec lui qu'un seul esprit. Basile dit, l'Esprit Saint fait notre intimité avec Dieu. Ou Irénée, l'Esprit Saint est notre propre communion au Christ. En fait, quand nous communions à Jésus, celui qui nous met en communion à Jésus, c'est l'Esprit Saint. De même, celui qui met en communion le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la personne communion. Donc, il n'y a pas de communion au Fils sans une communion à l'Esprit. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Vous voyez, pardon. Oui, ben oui. On ne peut pas en sortir. Oui. Donc, vous voyez, la communion au corps du Christ est forcément communion au Père, au Fils et à l'Esprit. C'est important de bien comprendre, voilà, les images que Jésus emploie, en fait, sont toujours un peu en dessous de la réalité de la communion. Quand il dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments », bon, c'est pas mal, mais la vigne, les sarments, bah, vous avez la vigne, vous avez les sarments. Ça fait quand même deux réalités un peu distinctes quand même. Vous avez le mystère des épousailles aussi. Hein? Vous savez, l'image des épousailles que Jésus emploie, bon, elles sont pas mal, mais pareil, l'époux, l'épouse sont quand même distincts. Dans la communion, il y a vraiment une fusion, tout en ayant une distinction, mais il y a quand même une fusion. Bon. Donc ça va beaucoup plus loin. Cette communion à l'Esprit Saint, je vous ai pas mis le texte, vous pourrez le retrouver dans ce que dit Benoît XVI pour les JMJ de Sydney. Il dit ceci, c'était donc dans le discours pour préparer les jeunes aux JMJ. Le thème c'était à Sydney l'Eucharistie. Je cite, source et sommet de la vie ecclésiale, l'Eucharistie est une Pentecôte perpétuelle. Parce que chaque fois que nous célébrons la messe, nous recevons l'Esprit Saint qui nous unit plus profondément au Christ et qui nous transforme en lui. Et c'est bien clair. Chaque fois que nous célébrons la messe, nous recevons l'Esprit Saint qui nous unit plus profondément au Christ et qui nous transforme en lui. Chers jeunes, si vous participez fréquemment à la célébration eucharistique, si vous prenez un peu de votre temps pour l'adoration du Saint-Sacrement, alors de la source de l'amour qu'est l'Eucharistie, vous sera donnée la joyeuse détermination à consacrer votre vie à la suite de l'Évangile. Vous ferez en même temps l'expérience que là où nous ne réussissons pas par nos propres forces, l'Esprit Saint vient nous transformer, nous remplir de sa force et faire de nous des témoins remplis de l'amour missionnaire du Christ ressuscité. Voilà, l'Esprit Saint nous est donné. Et enfin, nous communions au Père. Je pense à cette citation, Jean 17, 23, hein, où le Christ dit « Moi en eux et toi en moi ». Moi, je veux que moi, je sois en eux et que toi, le Père, tu sois en moi, afin qu'il soit parfait dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, 23. Donc vous avez peut-être cette belle récapitulation avec l'icône de Roublev, où nous voyons les trois personnages autour de la table et nous savons que c'est l'autel. Voilà, le Père et le Fils veulent communier à nous, hein. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. C'est bien le nous. Voilà.
Donc, quand on dit que le Christ et le
Oui. On ne peut pas séparer l'un sans l'autre. Hein. Nous ne sommes pas polythéistes. Voilà. Alors, oui, Basile dit, l'Esprit Saint fait notre intimité avec Dieu. L'Esprit Saint fait notre intimité avec Dieu. Tu ne peux pas être en communion sans l'Esprit Saint. Alors, si vous dites...
Si on demande l'aide par la parole de Jésus dans la communion, on passe forcément par l'Esprit Saint.
Oui. Mais en fait, Jésus, c'est Dieu sauveur. Donc, vous voyez, en fait, il y a une appropriation, comment dire, chaque personne de la Trinité a plus un rôle particulier, on va dire, de Jésus qu'il est sauveur, qu'il est rédempteur. On va dire du Père qu'il est plutôt créateur. On va dire de l'Esprit Saint qu'il est sanctificateur. Voilà. Donc, en fait, le Père m'a créé, le Fils m'a sauvé, et l'Esprit Saint, il achève, il sanctifie, il...
Relation d'amour entre Père et Fils. C'est ce qu'on dit au cathé.
Voilà.
Je disais, au cathé, c'est un mesure où on disait Dieu créateur, Jésus c'est Dieu fait homme.
Ouais, sauveur.
Pour nous sauver. Et l'Esprit Saint, la relation d'amour entre le Père et le Fils.
Voilà. Mais on voit bien, voilà. Voilà, bon. Enfin... Vous voyez, au début du monde, on a l'impression que l'Ancien Testament, c'est d'abord une révélation du Père. Hein, voilà, le Père qui conduit comme un bon Père son troupeau, il le fait sortir de terre, etc. Enfin, bon, il est le bon berger, etc. Bon. Ensuite, le monde fait un peu n'importe quoi et du coup, il envoie son Fils. Le Fils comme le Sauveur, le Rédempteur, qui va en quelque sorte rectifier ce que le Père a fait et il vient, voilà. Et ensuite, le Christ dit, je m'en vais. Et je vais vous donner l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il va vous conduire vers la vérité tout entière. Il va, voilà. Il va achever ce que moi j'ai sauvé. Donc, il y a comme un déploiement.
Voilà, je pense que c'est très important. Parce que dans l'Ancien Testament, Jésus, on ne le voit pas.
Non.
Mais il y a le Verbe.
Il y a le Verbe, celui qui parle, oui. Donc le Père parle à travers son Fils, oui. Voilà. Bon, donc tout est lié, même si on attribue tel ou tel temps de l'histoire à l'un ou l'autre personnage de manière plus importante. En sachant que l'autre est toujours derrière. Au commencement du monde, on nous dit que l'Esprit planait sur les eaux, donc l'Esprit Saint est là. Enfin, nous communions au corps du Christ. Hein, je ne peux pas séparer le Christ des membres de l'Église. Le texte numéro 14. Si le corps du Christ n'est pas mangé, il est en quelque sorte diminué dans la mesure où nous sommes tous ensemble un même corps, puisque nous participons à un même pain. Et lorsque les chrétiens en mesure de communier ne le font pas, saint Thomas nous dit qu'ils empêchent la construction du corps mystique du Christ. Ce faisant, ils favorisent, à l'inverse, la construction du corps mystique de Satan, qui est la prostituée dont parle saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Le corps du Christ dans l'hostie construit donc le corps du Christ qu'est l'Église. C'est en communion et en accueillant la grâce de la communion que l'Église se construit et devient signe toujours plus visible de la présence réelle de Dieu au cœur de l'humanité. Donc ça, c'est Nicolas Butet qui le dit. Si je peux communier, forcément, je suis divinisé, forcément, je deviens plus serviteur, forcément, etc. Et forcément, toute l'Église en profite. Si je ne communie pas alors que je pourrais communier, ben ce travail en moi-même que je ne fais pas, il dessert le corps du Christ. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Bon, et donc par relation, en fait, quand nous communions au Christ, tête, Jésus tête, nous communions aussi aux membres. Vous ne pouvez pas séparer le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Vous ne pouvez pas non plus séparer le Christ de l'Église. C'est pas possible de séparer. Donc, d'où le problème. Si toi tu communies à la tête Jésus, mais que ton frère à côté, tu ne peux pas le piffrer, c'est comme si tu embrassais quelqu'un sur le front en lui marchant sur les pieds. Voilà. Tu dis j'aime la tête, mais les membres non, et tu marches dessus. Ça va pas. Voilà. Vous comprenez? Donc, voilà. Et du coup, comme on ne peut pas séparer la tête du corps, nous allons dire que la messe est le lieu où nous avons une communion la plus forte avec les morts, avec nos frères défunts. Voilà. C'est là où nous sommes le plus proches de nos grands-parents, nos parents qui sont retournés vers le Père. Enfin, j'en ai déjà parlé dans une précédente conférence. Voilà. Et dernière chose, le Christ désire communier à nous. Je vous ai dit, plein de fruits de la communion, ça m'apporte moi, moi, moi. Mais il y a aussi le fait que le Christ désire communier à nous. Hein. J'ai soif. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. La plainte de Parelmonial, c'est un Christ qui dit, mais voilà, moi je voudrais être aimé. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit qu'ingratitude, en particulier des âmes qui me sont consacrées. Il faut bien comprendre que Jésus est celui qui veut se donner à tous les hommes. Et donc, quand il voit une chaise vide, eh bien, il se dit, ben voilà, j'aurais voulu me donner à Philippe, à Jacqueline. Elle n'est pas vue, elle n'est pas venue, il n'est pas venu ce matin, alors que moi, j'avais un grand désir de donner ma vie à lui, à elle. Voilà. On ne communie pas simplement pour nous, on communie aussi pour le Christ. Voilà, je termine avec l'oraison après la communion. Alors d'abord, la purification des objets sacrés. La purification, le prêtre va dire cette petite parole à voix basse. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur ce que notre bouche a reçu ? Et trouver dans cette communion ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Bon, ça c'est ce que le prêtre ou le diacre doit dire. Alors, le terme purification des objets sacrés, c'est pas tellement adapté évidemment, puisque les objets sont pas sales, puisqu'ils ont le corps du Seigneur. Mais en quelque sorte, on va rendre ces objets à l'état profane. Ils étaient sacrés. On va, en quelque sorte, enlever ce caractère sacré. Donc, en enlevant bien le pain, le corps, le sang du Seigneur, en vérifiant bien, voilà, qu'ils peuvent, en quelque sorte, reprendre l'armoire. Bon. Voilà. C'est pas une purification à faire devant le peuple. Pourquoi? Parce que ça ne porte pas la prière. Donc c'est plutôt à faire à la crédence. Voilà. D'où à la crédence, la nécessité d'avoir un corporal, puisqu'on va purifier, voilà, donc par respect, on fait notre petite vaisselle, mais plutôt à la crédence. Voilà. Après, si l'autel est trop petit, on le fait à l'autel. Ensuite, nous avons l'oraison après la communion. Cette oraison, il y a trois éléments. D'abord, elle consiste à dire merci. Nous avons reçu, nous te remercions, Seigneur. Ensuite, on demande quelque chose, en général, dans les oraisons. Bon, je n'ai pas de missel sous la main, mais enfin, vous verrez celle d'aujourd'hui. On demande que cette communion ne reste pas sans effet, qu'elle donne des fruits. Et souvent, aussi, troisième point, elle nous sollicite, elle nous invite à un élément, à une attitude missionnaire. Elle prépare en quelque sorte la sortie. Voilà. Ensuite, nous avons les annonces. Alors, les annonces, je lis texte 15. Une fois achevée la prière après la communion, on fera, si c'est utile, de brèves annonces au peuple. Donc, je signale que les annonces se font après la prière finale. Voilà, on a communié et on demande quelque chose par rapport à la communion. Voilà. Ces annonces, qu'est-ce qu'elles ont comme fonction? Ben, peut-être aussi de faire un lien entre ce qui se vit de manière, close, pas huis clos, mais un petit peu comme ça, parce que, enfin, nous sommes entre nous, hein, nous sommes dans la messe, Normalement, ceux qui sont, enfin, qui sont là dans l'église sont ceux qui ont été baptisés. Un catéchumène, dans le temps, il était renvoyé, vous savez. Bon. Donc, dans ces annonces, on va ouvrir vers l'extérieur. Vous voyez, on prépare un petit peu l'envoi déjà. On va annoncer, voilà, il y a telle chose dans le diocèse, il y a tel événement dans notre paroisse. Vous voyez, il y a des choses qui dépassent la simple célébration. Il va y avoir une conférence sur Saint-Hildegarde, voilà, en juillet. Voilà, le 13 juillet. Donc, c'est important peut-être de réfléchir à notre manière de vivre, notre rapport aux aliments, notre rapport à la musique, etc., avec Saint-Hildegarde. Bon, voilà. Donc, tout ça, on s'ouvre. Donc, on fait des liens. Et du coup, je comprends que l'Eucharistie, c'est un lieu pour partir. Et du coup, en quelque sorte, ça m'envoie vers la bénédiction finale que je vais commenter. Le modèle de la bénédiction, c'est l'ascension, Luc 24, 51. Et il advint comme il les bénissait qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Donc il bénit, il dit du bien. Alors, vous savez, en hébreu, dire et faire, c'est la même chose. Dire du bien, bénir, benedicere, et bien faire, benefactum en latin, sont une seule et même chose. Dans la Genèse, Dieu dit et cela est. Donc, je vais, voilà, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage, qu'il te donne sa grâce, qu'il t'apporte la paix. Qu'il mette en toi, eh bien, son esprit, afin que par toi, eh bien, toutes les nations soient bénies, se rapprochent de moi. Et on le voit bien, dans l'ascension, quand le Christ est emporté au ciel, il les bénit, c'est-à-dire qu'il leur donne un petit peu comme avec Élie et Élisée, en fait, la capacité de le rendre présent. Hein? Vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. Et au moment de l'ascension, ça y est, les disciples, en fait, partent en mission. À partir de cette bénédiction, les disciples partent en mission. C'est vraiment le moment... ils partent en mission, ils attendent l'Esprit Saint jusqu'à la Pentecôte. Mais on a bien compris que le Christ se séparait d'eux pour leur dire « c'est à vous de bosser ». Bon. Donc, cette séparation n'est pas une disparition de Jésus. Jésus invite à une collaboration et non à un remplacement. Collaboration, comme l'offertoire. L'offertoire, j'apporte le pain et le vin pour dire, ben voilà, je m'apporte un petit peu dans ce pain et le vin et ce vin. Seigneur, tu vas donner ton Esprit Saint et ensemble, tu vas être rendu présent. Voilà, c'est la même chose. « Je m'en vais, mais je reviendrai vers vous, dit le Seigneur, dans Saint Jean. Et je reviendrai dans cette Pentecôte que vous vivrez à chaque Eucharistie, où le feu de mon Esprit Saint, eh bien, tombera sur les Écritures pour qu'elles soient vivantes, tombera sur le pain et le vin pour qu'ils soient vivants, et que vous deveniez le corps du Christ et que vous le portiez au monde. » D'où... le dernier signe de croix, dernière bénédiction qui s'accompagne du signe de la croix. Hein, vous savez que le signe de la croix signifie les quatre points cardinaux. Et en quelque sorte, comme si la terre tout entière était recouverte de la croix du Christ. Et vous savez que dans la croix de Jérusalem, vous avez en plus des petites croix entre les quatre croix. Parce qu'on se dit, ben, tiens, tout le cosmos, peut-être qu'il y a des lieux où la croix ne va pas toucher tout le cosmos. Alors on rajoute des petites croix entre chaque bras pour que ça soit vraiment la terre entière qui soit touchée par la croix. Donc le prêtre béni et le diacre, hein, qui fait bien le lien avec le monde, toujours la fonction du diacre, va dire « Allez de toutes les nations, faites des disciples » avec cette formule « Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu ». Alors « Allez », c'est vraiment la reprise de Matthieu 28, 19. Donc, je ne sais pas encore la nouvelle traduction du missel. Je sais qu'elle va changer. Et donc, on ne dira plus « aller dans la paix du Christ », on dira autre chose. Mais donc, ça veut dire « aller chercher les autres ». Hein? Allez chercher, soyez comme le bon samaritain qui va sur les routes, qui va chercher les gens blessés et qui les ramène à l'auberge. L'église, c'est l'auberge. Et dans cette auberge, eh bien, il fait bon vivre, on reçoit une instruction. Et dans cette auberge, on reçoit une nourriture. On reçoit du pain, on reçoit du vin, c'est-à-dire qu'on reçoit le corps et le sang du Seigneur. Une nourriture vivifiante qui fait que ça va te redresser, ça va te diviniser, tu vas devenir le Christ. Toi qui étais au loin l'esclave, toi qui, comme un animal, a mangé l'aliment des cochons, donc retrouve ta dignité en revenant près du Seigneur. Et donc nous sommes en quelque sorte comme des ambulanciers, où nous allons chercher à travers la ville les gens qui sont malades, et nous les amenons à l'Eucharistie. Allez, c'est aussi l'image du bon berger. Hein? Le bon berger, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix et ses brebis à lui, il les appelle une à une et il les mène dehors. Le bon berger, il connaît ses brebis, il va les mener dehors, ses brebis à lui. Hein, donc c'est très curieux, vous voyez dans ce texte de Jean au chapitre 10 que je vous invite à relire, les 5 premiers versets, je vous ai mis dans le tableau. Hein, le bon berger, il introduit les gens dans l'auberge, dans l'enclos plus exactement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait, le bon berger? Il les mène dehors. Si tu es rentré dans l'église, c'est pourquoi? C'est pour sortir de l'église. Je vois quelqu'un est véritablement rentré dans l'église à sa capacité d'être missionnaire, de sortir. Au sens du pape François, d'être témoin. Voilà. Donc, le but, c'est que cette communion, en fait, grandisse. Et je vous renvoie au premier épître de Saint Jean, hein, qui exprime bien ce mouvement d'entrée et de sortie. Je cite, premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 1 et suivant. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous l'avons vu. Nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle. » qui était tourné vers le Père et qui nous est apparu. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Nous sortons. On a touché. On a entendu la parole. On a goûté au corps et au sang du Seigneur. Alors nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Très intéressant, vous voyez. Ce que nous avons vu et entendu, on l'annonce afin que vous aussi, vous soyez en communion, pas avec le Christ, en communion avec nous. Donc, en quelque sorte, la messe, si vous voulez, c'est, comment dire, ce corps du Christ qui se reforme. Nous, on a été nous nourrir à l'Eucharistie, au corps du Christ, à la tête, et on va sortir dehors pour aller chercher tous les blessés et pour qu'ils reviennent dans l'auberge, qu'ils aient la nourriture qui va permettre de reformer le corps du Christ. Et alors, à ce moment-là, il y aura un seul être, comme dit Jean chapitre 17, il y aura une seule église, un seul corps, une seule foi, un seul baptême, le Christ tout en tous. Amen. Alléluia.